À Trampolino, nous sommes très contents en fait d'accueillir cette journée d'études. Peut-être je vais revenir en quelques mots très très rapidement pourquoi en fait du coup accueillir une ANR en fait sur des questions punk, parce que d'une part en fait à Trampolino, on a commencé en fait depuis quelques années à travailler sur des questions qui nous intéressent, c'est-à-dire d'être en mesure à la fois de faire dialoguer des passionnés, des musiciens. Voilà, un certain nombre de personnes qui sont liées en fait à ces questions-là, qui ont des intérêts, qui se questionnent, donc qui sont un peu en recherche. Et puis on a associé très souvent dans nos travaux des personnes qui font de la recherche. Et ce qui nous intéresse, c'est comment en fait on fait dialoguer des personnes qui font de la recherche et des personnes qui sont en recherche, dans le sens où ces musiques-là sont complexes, elles sont incertaines et elles interrogent, elles posent des questions. Du coup, on a créé en fait un espace à Trampolino qui s'appelle le Mawork Lab et qui permet en fait d'associer justement des personnes qui sont en situation de recherche et des personnes qui font de la recherche pour dialoguer. Et en fait, ce dialogue-là, il est important. Donc, on prend en sérieux en fait un certain nombre de questions pour nous permettre de développer des journées comme celle-là aujourd'hui en fait à Trampolino. On organise aussi la semaine prochaine une autre journée d'études au château sur la question plutôt là, des professionnels et de l'avenir des musiques actuelles. Et du coup, ça nous intéresse effectivement à Trampolino, parce qu'en fait, on est en lien bien souvent avec des laboratoires, on est en lien avec des universités pour questionner en fait, puisque ces musiques-là sont des questions de société dans toute leur complexité. Et l'intérêt, bien sûr, évidemment, c'est de prendre en compte cette réciprocité des savoirs, cette intelligence des savoirs, en fait aussi, des savoirs qui sont différents, mais qui peuvent se compléter. Et là, la journée nous permet en fait de dialoguer en fait à la fois sur l'histoire du punk, mais aussi sur des questions vives en fait aujourd'hui autour de ces esthétiques-là. Voilà. Donc je voulais remercier aussi puisque cette journée-là, l'accueil qu'on organise ici à Trampolino, c'est né donc du coup de ce travail de lien en fait du Mawork Lab, et particulièrement donc l'association Plan Neuf et Elvire Bornand qui a travaillé énormément dans la proposition de cette journée d'études, et puis bien sûr en collaboration avec l'ANR Punk Is Not Dead. Voilà, je relaisse la parole. Je vous souhaite une bonne journée au nom de Trampolino. Et puis, bah, j'espère qu'on pourra ensuite, après, échanger les petits temps dans la journée. Et puis, un certain nombre voilà, de sessions dans la journée qui vont nous permettre d'aborder un certain nombre de points. Voilà. Donc, merci. Et puis, je laisse la parole, du coup, à Luc Robben et Solveig Serre.
Bonjour à tous, on est très heureux de vous accueillir sur cette journée du projet Punk is Not Dead. Je me présente rapidement et Solveig se présenter, puis on va vous présenter un petit peu le projet, le périmètre du projet et puis nos objectifs. Donc moi je suis Luc Robben, je suis professeur à l'Université de Bordeaux et puis par ailleurs je suis musicien, voilà, depuis un certain nombre d'années. Je suis guitariste notamment du groupe Strychnine à Bordeaux et Arnaud Futur, un groupe parisien.
Bonjour à tous, merci d'être là si nombreux alors qu'on est samedi matin, parce que ça arrive pas si souvent en fait. Ah oui, mais moi j'ai moins de voix d'amphi que Luc en fait. Voilà. Moi je suis chercheur au CNRS, je suis on va dire musicologue et historienne, donc je travaille sur la musique. Et on va vous présenter, on va prendre un gros quart d'heure pour vous présenter le projet qu'on mène depuis 5 ans avec Luc et qui a obtenu un financement de l'Agence nationale de la recherche, qui est le seul organisme qui finance la recherche en France depuis 2 ans. Voilà. Et ce projet s'appelle PIND, Punk is not dead, ou PIND. Ça, on a des grandes discussions pour savoir comment faut prononcer. Et son sous-titre, c'est Une histoire de la scène punk en France, 1976-2016. Alors, je vous fais l'affront d'expliquer ce qu'est le punk, enfin d'essayer de définir l'objet, parce que en fonction de à qui on parle, c'est pas toujours un objet qui est bien connu. Alors on va le définir comme ça. On va dire que en 1976, dans le monde occidental, une multitude de formations musicales sont désignées par les médias ou s'autodésignent comme punk. Un vieux terme qu'on retrouve dans l'Angleterre de Shakespeare, qui signifie pourri, paumé, prostitué, homosexuel, vaurien, et qui appartient donc à toute cette série des mots comme fuck, shit et punk. Alors ces groupes, ils font quoi? Vous voyez ça sur un fanzine très très connu. Ils prennent, ils font un accord, deux accords, trois accords, puis en fait ils montent un groupe. Donc c'est des groupes qui d'un seul coup décident qu'ils vont jouer de la musique en opposition avec la musique qu'il y avait juste avant, c'est-à-dire la musique progressive, la musique de stade, la musique des gens qui savaient jouer de la musique, qui étaient formés pour en faire. Et là, on sait pas faire, on n'a pas les moyens de le faire, mais on y va quand même, et donc on fait du punk. On vous a mis donc le Star Shooter. Donc les Beatles, c'est un groupe de nuls pour ringards. Moi, j'en ai rien à foutre qu'ils crèvent, c'est des chiens. Donc voilà, on disait révolution musicale. Et du coup, retour aux sources du rock'n'roll. Donc une première période, 76-78, là, le vrai punk pour les puristes. Très très, on va dire, hétérogène du point de vue sonore, parce que les sources du rock'n'roll sont hétérogènes. Donc quelque chose qui, à l'oreille, en fonction des groupes, est très très différent. Alors oui, avant que tu prennes la parole, on a quand même la primeur de cet événement en France, donc qui est quand même un événement fondateur, qui est le premier festival de punk au monde, qui a lieu à Mont-de-Marsan. Donc on voit la programmation des groupes, c'est quelque chose où il n'y a pas du tout que des groupes français, on voit bien qu'il y a déjà des étrangers, enfin, qui viennent en France, qu'il y a une espèce de terrain extrêmement fertile. Voilà, donc on a là la primeur de cet événement. On aime bien montrer cette photo. On les aime bien ces photos parce qu'elles montrent le tuilage générationnel en fait entre une génération et l'autre. Il y a encore des cheveux longs, des hippies sur la photo, alors que vous savez bien que pour cette génération de punk, un bon hippie est un hippie mort. Mais là, vous voyez bien dans les looks en fait qu'il y a une espèce de passation d'une génération à une autre. Et voilà, vraiment ce festival punk de Mont-de-Marsan qui vient fonder en France ce mouvement.
Alors, en 1978, le punk est déclaré mort. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit la presse. C'est ce que disent aussi beaucoup de musiciens. En réalité, et c'est un petit peu ce qui fait qu'on s'intéresse aussi à cette question, c'est que 40 ans plus tard, on découvre qu'il y a toujours des punks. Alors, ce qui est intéressant, je le dis très rapidement, c'est regarder le contexte aussi dans lequel émergent d'autres générations punk. Contexte avec... Ouais, c'est mieux là, non? Oui, avec... l'émergence de politiques libérales, néolibérales, Thatcher en Angleterre, Reagan aux États-Unis, on voit qu'il y a une réaction des nouveaux courants qui émergent, par exemple aux États-Unis avec les Dead Kennedys ou en Angleterre avec Crass. Donc la question du contexte est fondamentale, et en France c'est un petit peu la même chose. On peut assez rapidement et assez facilement voir que d'autres générations punk vont émerger. Alors dans le contexte des années mitterrandiennes et très rapidement du virage de la rigueur, hein, 83, montée du FN, évidence de nouveaux thèmes, enfin de thèmes sociaux très importants, lutte contre le racisme par exemple, soutien à l'immigration, et on voit que dans ce contexte-là émerge une génération punk en France beaucoup plus politisée au sens de la politique politicienne, avec des slogans qu'on n'avait pas entendus auparavant. La jeunesse emmerde le Front National, pour ne prendre que celui-là qui est porté par Berruyer Noir. Une troisième génération, dans un contexte qui a encore changé, qui est celui de la mondialisation, de l'agenda 21, de nouvelles problématiques, celles qu'on connaît aujourd'hui, hein, notamment tout le discours sur l'écologie, où on va voir émerger des segments du punk qui s'affirment de manière plus évidente, avec des lectures idéologiques ou potentiellement idéologiques, tout le segment vegan, straight edge, etc. Et aussi des formes d'hybridation musicale, culturelle. Sur la photo, on voit bien que les looks ont changé. Hein, on est plus sur les spikes du début, et on a des looks beaucoup plus mélangés, beaucoup plus hybridés. Et dernière remarque sur la question du punk, sur 40 ans de punk, ce qu'il faut voir, c'est que la question du punk, elle s'est aussi mondialisée. C'est-à-dire qu'elle a dépassé ce qu'on pourrait appeler l'épicentre occidental blanc pour toucher beaucoup de peuples dans le monde. Et la question du punk devient une question politique peut-être encore plus fondamentale. Ici, on a mis une image sur les punks, c'est en Indonésie, de mémoire, hein, où on voit de quelle manière les types sont ramassés par la police, rasés, mis dans le fleuve et mis en camp. Hein. Donc la question de la résistance ou du vaisseau de résistance que peut représenter le punk prend là encore une dimension politique tout à fait fondamentale. Autrement dit, aujourd'hui, il y a du punk dans le monde entier, il y en a en Chine, il y en a en Iran, il y en a partout.
Alors notre projet, il sert à quoi? Alors, il y a un peu de texte, mais je vais quand même aller vite. Donc, il sert à étudier les spécificités donc du punk sur un territoire qui est le territoire national, mais aussi quel impact a pu avoir le punk français à l'extérieur du territoire national, c'est-à-dire les groupes qui ont pu essaimer, signer ailleurs, éventuellement avoir de l'influence. Donc voilà, c'est envisagé dans une perspective dynamique, à la fois sur le territoire, et en fait, c'est grand le territoire quand on le fait ville par ville et région par région. La deuxième chose, c'est de montrer de quelle manière le punk, en fait, c'est un miroir pour essayer de comprendre les phénomènes d'innovation et de résistance qui structurent nos sociétés actuelles. Donc, en gros, comment on peut écrire une autre histoire de la France à travers ce prisme spécifique musical et du punk, en montrant aussi, c'est ce dont Luc parlait tout à l'heure, comment on est passé d'un au futur à la défonce, à l'absence de perspective, quelque chose d'assez dur, à quel futur allons-nous construire aujourd'hui avec une nouvelle génération. Donc c'est aussi d'étudier les formes d'évolution et de réinvention sur 40 ans, qui est finalement un temps assez long.
Quels objectifs ? Eh bien, un projet qui veut à la fois casser les formes d'illégitimité du punk, c'est-à-dire en faire finalement un objet, enfin montrer tout l'intérêt qu'il y a à travailler sur cette question du punk comme étant quelque chose qui se situe en résistance, aux marges, mais qui nous apprend et qui nous apporte beaucoup sur le fonctionnement de la société. Donc, en faire un objet d'étude légitime et aussi rendre au punk l'importance qui lui revient. Préserver une mémoire en péril parce que, bien évidemment, en raison de style de vie, d'usage de drogue, de comportements spécifiques, eh bien, beaucoup des acteurs disparaissent très vite. Il y a une urgence vraiment à travailler sur cette scène-là. D'autre part, les supports d'archives sont aussi des supports plutôt périssables. Alors, ça peut se discuter, mais en tout cas, la question de l'urgence est vraiment quelque chose qui est central dans ce projet. Il faut aller vite. Alors c'est la raison pour laquelle on a organisé très rapidement et à un rythme assez soutenu ce type de rencontre pour aller vers les acteurs, construire du réseau et récupérer de l'archive. Je le dis parce qu'on a besoin, d'archives. On fait pas d'histoire sans archives. Hein, c'est pas magique l'histoire. Autre chose, placer la musique au centre. Alors c'est tout à fait fondamental parce que quand on regarde ce qui se passe dans les pays, aux États-Unis ou en Angleterre, où l'approche est beaucoup plus politique sur le punk, où la musique est quelque chose qui est à la limite conçu comme un petit peu marginal dans les projets. Nous, on considère que sans musique, il n'y a pas de punk. La musique est vraiment au centre. C'est ce qui porte tout. C'est le liant. C'est le ciment de tout ça. C'est ce qui crée l'émotion. C'est ce qui crée le vaisseau, le véhicule à travers lequel, avec lequel on va pouvoir avancer. Et puis, faire de la science d'une autre manière. Peut-être que tu veux dire un mot, Solveig, sur l'équipe.
Alors voilà, on a la particularité d'avoir une équipe mixte, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout composée que de chercheurs. Les acteurs de la scène participent vraiment à sur un pied de totale d'égalité, on va dire, avec nous, parce qu'ils ont parce qu'ils ont des compétences vraiment spécifiques à nous apporter et des comportements qui nous obligent à nous caler les uns et les autres, et c'est hyper riche. C'est pas très courant, on va dire, au CNRS et à l'université de procéder comme ça, et en fait pour nous c'est devenu une vraie richesse. Donc on continue vraiment à faire comme ça, on est très très contents. Alors on va aller très très vite pour pas vous en notre projet est conçu autour de 4 grands chantiers de recherche. Alors, le premier, c'est le temps. Donc, la question centrale, c'est comment une culture musicale s'inscrit dans le temps, dans 40 ans, en étudiant 2 choses. La première, alors c'est ce dont parlait Luc tout à l'heure, c'est on va dire qu'en France, on a globalement fait émerger 3 générations. Une première génération hyper hétérogène du point de vue du son, voyez, Metalus, Star Shooter, les Olivenstein, on va dire le slogan fier de ne rien faire, Valstar, la vierge des stars, euthanasie papy, euthanasie mimi, mamie, ton calvaire est fini. Une génération plutôt revendicative, mais du point de vue, enfin en gros, c'est des jeunes qui s'emmerdent et qui essaient de faire subversive, mais pas encore de la politique politicienne comme ça va être le cas pour la deuxième génération. Beaucoup plus dur. Alors, je dis 3-4 termes plutôt anarcho-punk, l'importance des squats avec les autonomes et le dialogue avec les autonomes. Une génération, la jeunesse emmerde le Front National, caméra silence du nom des chambres d'isolement. Quelque chose, de très dur avec un son qui se durcit aussi et commence à s'homogénéiser. Et une troisième génération, Bon, les Tagada, sûrement représentatifs, hybridés, d'autres sonorités, comme de métal, par exemple. Voilà, on voit toujours le Eiffelo et les extraterrestres. C'est Sioux qui nous a fait découvrir ce groupe avec une chanson qui s'appelait « Putain, enculé d'étudiants de merde ». Ça n'a pas du tout plu quand on l'avait montré devant plein d'étudiants. Et voilà, donc quelque chose de très, très composite et aussi, justement, avec des préoccupations dans les textes écologiques, etc., qui n'y avait pas du tout dans la première génération où on vantait la ville, le bitume, enfin, des choses un peu plus crades. Ah, et voilà, là, ça, c'est une photo pour dire qu'à ces trois générations correspondent des codes corporels aussi qui ne sont pas les mêmes, vous voyez. Première génération, épingle à nourrice, spike. Deuxième, plutôt crête. Et puis, troisième génération, une espèce de, comme le son, de mélange des looks, en fait, assez évocateur de ce que peut être cette troisième génération. Sûrement une quatrième génération, mais pour l'instant, on n'y voit pas assez clair. On est trop, trop près.
Ce qu'il faut dire dans cette question des générations, c'est que c'est pas coupé comme ça, il y a un tuilage, hein, ne serait-ce que parce qu'il y a des groupes de première génération qui jouent toujours ou qui se sont reformés. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs, si on prend des groupes de première génération, on voit que par rapport à ce que disait Solveig, les thèmes ont évolué. Si je prends Strychnine, qui est le groupe qui joue à Mont-de-Marsan 76, aujourd'hui sur le troisième album, bah, il y a des thèmes écolo, par exemple, qui n'existaient absolument pas sur les premiers albums des débuts. Donc à l'intérieur même, hein, des groupes, évidemment, le rapport à la vie, les thématiques ont changé. Alors, travailler sur le temps, c'est travailler évidemment sur la mémoire. C'est plusieurs choses. C'est regarder comment les gens ont avancé dans la vie, ont vieilli, vécu en famille ou pas. Et c'est aussi travailler sur la mémoire et notamment regarder de quelle manière cette mémoire peut entrer en conflit avec d'autres mémoires. Hein, les acteurs s'accordent pas sur l'importance des événements, sur les événements eux-mêmes, sur ce qu'on a pu vivre, etc. Donc c'est absolument essentiel de confronter des discours et de voir comment tout cela fonctionne. Le travail sur l'espace, c'est regarder comment la culture musicale punk s'inscrit dans l'espace. Alors Solveig l'a dit tout à l'heure, à la fois pour regarder qui fait quoi, hein, où, comment circulent les acteurs, regarder aussi de quelle manière une culture, la musique punk, la culture punk s'inscrit de manière différentielle dans l'espace. Il y a du punk à Paris, il y en a un petit peu partout en fait. Ça a été un des premiers résultats de projet, de montrer que du punk il y en avait partout, mais que aussi en fonction des territoires, en fonction des identités, eh bien le punk pouvait se teinter, se colorer de manière différente. On a mis cette photo des Bérus, groupe parisien, mais mis en perspective avec les Ramoneurs de Menhir, avec Lorane, la Bretagne, et puis toute la musique traditionnelle qui vient nourrir ce projet punk et lui donner une autre coloration, avec des enjeux évidemment aussi idéologiques, politiques derrière, qui sont fondamentaux. La question des frontières est fondamentale. On va dans peu de temps travailler sur le Pays Basque, par exemple. Vous savez que pour les Basques, il n'y a pas de Pays Basque français ou espagnol, il y a le Pays Basque. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on parle du punk au Pays Basque? On va regarder un territoire qui finalement, tout d'un coup, supprime une frontière, hein, et place au centre de cette problématique musicale et politique, eh bien, l'identité basque, par exemple. Donc cette question de la porosité des frontières, elle est importante. Elle est aussi importante quand on regarde de quelle manière, non seulement le punk anglais ou américain a pu avoir une influence sur les Français, mais de quelle manière les groupes français aussi se sont exportés. Je pense à Metal Urbain qui est allé signer Vivre à Londres, signé sur Rough Trade. On pense à Stinky Toys qui a joué à Londres, etc., etc. Donc de quelle manière ces frontières jouent ou ne jouent pas.
Alors troisième chantier, c'est ce qu'on a appelé système de représentation, c'est-à-dire comment la scène punk est-elle représentée et comment se représente-t-elle à elle-même. Alors là, ça touche tout un chantier autour de la médiation et de la médiatisation du punk, à la fois dans la presse, on va dire, officielle, et dans tout ce qu'il y a derrière, là, dans les fanzines, qui sont une source inépuisable, en fait, de matériel conservé à la fanzinothèque. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille plus de très près. Voilà, donc comment cette scène est représentée dans les, on va dire, les médias.
Samuel Etienne, oui, qui nous a composé ce magnifique mur de fanzine avec la qualité, les repos et tout. Enfin, voilà, on pourra l'applaudir aussi, Samuel. Je sais pas où.
Oui, et Elvire qui, je crois, a bien payé de sa personne pour trouver du bois.
C'est du do it yourself, hein, aussi.
Alors, sur ce qu'on a appelé la cohérence dans l'anarchie, ça c'est absolument fascinant, c'est-à-dire que voilà un mouvement qui prône justement l'anarchie, l'éclatement, toutes ces formes un petit peu kaléidoscopiques du punk, mais en fait quand on regarde et quand on travaille sur cette musique, sur cette culture, on voit de quelle façon il y a des codes qui entrent en résonance, c'est-à-dire que la musique à un moment, un son, on va reconnaître un son qui correspond peu ou prou aussi à un look, et puis à une manière de jouer sur scène, etc. Donc on travaille sur... remettre un petit peu de sens, non pas d'ordre, mais de sens dans cette culture qui dit ne pas avoir d'ordre, justement. On se rend compte que c'est plus compliqué que ça. Par exemple, ne serait-ce que cette esthétique de la crête, par exemple, alors, qui est représentée à la fois dans les fanzines, dont on peut penser qu'elle s'est inspirée aussi de la culture du cinéma, hein, avec une représentation de Robert De Niro dans Taxi Driver, vous avez tous reconnu. Donc, de quelle manière, finalement, le punk emprunte, détourne, subvertit, mais aussi de quelle façon on peut... comme ça, retrouver ce qu'on pourrait appeler des cycles à l'intérieur desquels la musique, l'esthétique, l'esthétique des pochettes, le look, etc., tout ça entre finalement en résonance. Et pour revenir vers cette question un petit peu des générations.
Alors, dernier chantier, c'est celui de la violence de la scène punk, violence prétendument, enfin, ou existant vraiment, réelle ou fantasmée, hein, tout le travail, il est là, autour de trois sous-chantiers. La violence des émotions, donc par exemple, là on a pris une photo de Pogo, le corps et la question du genre, en fait, des rapports entre les hommes et les femmes, voilà, qui sont des grandes questions à explorer parce qu'il y a énormément de choses à dire, surtout sur, en gros, pour aller très rapidement, sur un mouvement qui s'affiche prétendument comme ouvert et en fait l'est beaucoup moins qu'il n'y paraît quand on étudie de près la place faite aux femmes sur la scène, etc., etc., dans les textes, voilà. Donc quelque chose qu'il faut encore analyser finement. Là où on est aujourd'hui, c'est donc ce qu'on appelle chez nous journée d'études. C'est vraiment le noyau dur du projet. Vous voyez, c'est la 23e, je crois, aujourd'hui, ou la 22e, je sais plus. On en fait presque une par mois, les bons mois. Voilà, et donc où on va à Paris et on creuse des grands thèmes, ou alors on va sur les scènes locales et on s'occupe de l'endroit où on est, en fait, du point de vue local et sur 40 ans. Alors notre projet, c'est donc des communications scientifiques, là j'ai pris un chercheur qui avait l'air sérieux, des tables rondes avec les acteurs, entre autres là il y a Tandy, Ty Luc de La Souris des Glinguères, Man Schwarz de Métal Urbain, Nini de Noirdaise et puis Dubos là. On a un séminaire méthodologique depuis l'an dernier pour, là c'était quelque chose pour, c'était un peu notre psychanalyse de groupe pour réfléchir un peu sur comment on faisait pour travailler sur des terrains qui sont quand même des terrains sensibles et contemporains, comment on s'en sort en fait de tout ça avec les liens d'amitié qu'on tisse, est-ce que ça biaise la recherche, etc. Donc c'était vraiment pour se poser ce genre de questions. Et bon, ça veut dire former part et à la recherche, ça veut dire qu'on a des jeunes dans l'équipe, hein, qu'on forme et qu'on espère qu'ils vont continuer après le travail quand on sera vieux et à la retraite. C'est de la musique, souvent pendant nos journées ou après nos journées on fait de la musique. C'est des murs de fanzine, alors on changera la photo maintenant, on mettra celui-là peut-être pour tourner un peu, voilà, comme ce que fait Samuel. Ce sont des expositions photos, voilà. La FSU est dans la salle qui nous a fait cette expo. C'est les experts dans les archives, vous voyez là, voilà, avec les gants, tout ça, pour trier, en gros, pour transformer des documents super chouettes en trucs hyper rationnels, inventoriés, etc. Mais c'est comme ça qu'on conserve la mémoire et qu'on espère arriver un jour à avoir un endroit où on peut tout stocker et conserver et lire ces archives pour tout le monde, pour que tout le monde puisse y aller. Pour ceux qui ça intéresse, on a une base de données collaborative, donc tout le monde peut rentrer les données dedans, vous, hein, vous pouvez rentrer toutes les données sur vos groupes, mettre les fichiers son, vos démos, tout ce que vous voulez. Ça nous aidera beaucoup, en fait, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à appréhender encore. Et tout ce qu'on vous a raconté, c'est en ligne sur cette adresse, qui est une vraie adresse universitaire impossible à divulguer. Donc, photographiez bien ça. Voilà, il y a notamment toutes les captations sonores des journées d'études qu'on a fait. Donc, il y a des heures et des heures d'écoute sur des sujets divers. Donc, voilà.
Donc, PINT, c'est quoi ?
L'acronyme de Punk is not dead.
Punk, pas mort.
C'est aussi le nom d'un projet de recherche consacré à l'histoire de la scène punk en France depuis 1976 jusqu'à nos jours.
Un retour vers No Future qui interroge l'existence et les conditions d'existence de la scène punk en France depuis 40 ans.
Ça parle de musique et de musiciens, d'artistes et de visuels, de la débrouille et de la vie sur scène ou au squat, d'une création en résistance à Caen, Rouen, Paris, Toulouse, Nantes, Fumel, Bordeaux, Rennes, Montaigu, Lyon, Saint-Étienne.
Ça parle des marges et d'un regard sur l'autre.
Ça parle de la vie, de la poésie et du corps, de la danse et des manches de guitare, des tatous et des marques, des filles et des garçons, de la dope et des avenirs qui en meurent.
De la jeunesse et de la vieillesse qui surprend toujours en creux ceux qui pensaient ne pas survivre à nos futures.
Ça parle de 77 et des années 80, 90, 2000, 2010.
Ça parle d'aujourd'hui et sans doute de demain.
Ça cherche, ça discute, ça polémique, ça gueule souvent, mais toujours pour comprendre.
Bref, c'est un truc essentiel, piloté et mis en musique par des chercheurs et des musiciens. Une équipe terrible et tellement motivée. Do it yourself, just take a look. Voilà, merci pour votre attention. Yeah.